Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Merci d'être parmi nous à nouveau pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, un discret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Jury, directrice générale de l'enseigne Lafcar, lancée en réseau en 2011. Lafcar trouve sa genèse bien plus tôt. Dès 1984, Bernard et Florence Jury, les fondateurs, se sont spécialisés dans la vente de produits de lavage avant de se diversifier dans l'installation de portiques, le tout à destination d'une clientèle B2B. C'est au début des années 2010 que l'enseigne se structure et s'ouvre au grand public. Lafcar compte aujourd'hui un réseau de 120 unités et a participé à notre rubrique pour notre numéro de mai 2021. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints.
Alors, avec plaisir.
Pour commencer, Sylvain, pouvez-vous nous expliquer quelle est la notation de l'AFCAR et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne ?
Alors, il y a beaucoup de points forts. Donc, c'est très positif. En fait, l'évaluation globale est à 72%, 69% sur le DIP et 75% sur le contrat. Donc, c'est important de dire en introduction que c'est une documentation qui est simple, qui est conforme sur le plan purement légal, et notamment sur le contrat qui est simple, équilibré et accessible. Donc, quand on se place d'un point de vue candidat à la franchise, on a affaire à quelque chose qui est plutôt rassurant, qui est bien travaillé. Ce qui est un élément, on le constate assez régulièrement, Camille, qui n'est pas le cas dans tous les réseaux. On a quand même des annexes du DIP qui sont à jour, avec un état général de marché qui date de 2019, donc qui est assez récent.
Tout à fait.
Donc, si on était un peu pointilleux, on se dirait que compte tenu du contexte, il faudrait mettre un petit encart pour remettre au goût du jour cet état général et le mettre en perspective par rapport à la crise actuelle, parce que malheureusement, actuellement, les marchés ne sont pas linéaires, ils sont plutôt très fortement chahutés. Donc, ça pourrait être intéressant de le préciser. Voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui dans pas mal de réseaux qui mettent à jour leur DIP. Ils mettent un encart par rapport à l'état général de marché en disant, compte tenu du contexte actuel, voilà ce qui se produit. Même si on ne peut pas réactualiser l'état général aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Mais bon, sincèrement, c'est des documents de bonne facture et on ressent vraiment une volonté de bien faire les choses.
Dans votre analyse, vous expliquez que le DIP a été rédigé sous un angle de conformité juridique, mais avec la volonté de le rendre simple à la lecture, un objectif que vous estimez partiellement atteint, tout en précisant que le document souffre d'un manque de précision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui pourrait être apporté ?
Alors, en fait, c'est souvent le petit défaut qu'on peut constater sur les DIP, c'est que le DIP, c'est le juste équilibre entre la conformité juridique, qui encore une fois est présente ici, et la commercialité, la pédagogie commerciale. Et notamment, en fait, quand on crée un réseau, on va vraiment se focaliser, si on veut bien faire les choses, ce qui est le cas ici, sur la partie conformité juridique. Mais à un moment donné, ça ne répond pas uniquement aux attentes et aux besoins des candidats à la franchise que de rester uniquement sur l'aspect juridique, qu'ils ne maîtrisent pas pour eux, mais en fait de comprendre le sens du projet et d'expliquer le pourquoi. Et ça, plus un réseau évolue, en fait, plus il passe de « je vends un concept » à « je vends un projet de vie en réseau ». Et ça, ça manque un peu. Donc, on se retrouve avec un document qui est, encore une fois, très fiable hein, sur le plan juridique, il n'y a pas de sujet, mais qui peut être assez austère, qui va manquer de visuel, qui va manquer de sens, qui va manquer de pédagogie. Et en fait, quand on lit le document attentivement, on commence à découvrir les vrais points de force du concept et de la marque en annexe 11. On voit la labellisation franchise équitable, on découvre l'histoire de l'enseigne, on a des liens vidéo. Et ça, en fait, ça vient en fin de document, alors que c'est certainement une des attentes premières des candidats à la franchise, c'est-à-dire les vraies raisons d'adhérer, quoi, et de rejoindre le projet.
Bah vous estimez aussi que oui, en effet, le DIP pourrait mieux expliquer ses points forts, le concept et les facteurs clés de l'AFCAR.
Exactement, en fait, c'est souvent ce qui est le plus important. Parfois, on a tendance à le dire à la fin, et c'est un peu ce qui ressort dans le document. Et là, on se retrouve avec les annexes de mémoire 9, 10, 11, en fait, où il y a état général de marché, état local de marché, plus cette annexe 11 qui doit s'appeler étude de marché, en fait, où on voit le concept, l'histoire de la marque. Tout ça, ça fait un peu trop d'informations qui sont parfois redondantes. Alors qu'il y a une partie en fait qui est vraiment essentielle sur l'histoire, le pourquoi, le sens, qui pour moi devrait être en tête de chapitre. C'est le plus important pour un candidat, les motivations à rejoindre un réseau, c'est se sentir accompagné et sentir qu'il y a un vrai franchiseur. Mmh. Et on le ressent malheureusement un peu trop tard. C'est une marque qui est entre guillemets pas très connue pour les béotiens de la franchise en fait, hein, hors secteur d'activité j'entends. Et c'est bien dommage. Donc voilà, donc, s'il y avait un point de progrès, ce serait simplifier, se poser la question des motivations, des intérêts, des attentes des candidats et réorganiser un peu le tout. Voilà, je dis toujours un peu dégager l'essentiel de l'accessoire dans un DIP, c'est important. Et sortir de cette pure conformité juridique pour donner de la commercialité dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas vendre, on n'est pas dans la vente dans un DIP. On est dans donner du sens, quoi, et expliquer le pourquoi rejoindre un réseau.
Marie Jury, est-ce que vous souhaitez réagir à cette analyse ? Est-ce que vous avez des questions spécifiques à ce qui vient d'être dit ?
Oui, je vous rejoins totalement sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est toujours la difficulté quand on confie aussi la rédaction d'un contrat juridique, en fait, où nous, on est complètement, enfin, c'est pas du tout notre domaine de compétence. Et du coup, on délègue un peu, je dirais, le travail à l'avocate. Et nous, on garde le sens de notre concept. En fait, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'écrire. C'est quelque chose qu'on dit oralement, qu'on donne à nos futurs franchisés, mais qu'on n'écrit pas. Et contractuellement, nous, le DIP, pour nous, ça reste un outil contractuel et un outil juridique. Et on a tendance à oublier qu'avant tout, c'est aussi la première découverte de la part du futur franchisé et que c'est important de préciser quel va être le sens donné au projet et à la franchise. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on remette notre patte un peu à l'outil sans dénaturer le contrat et retirer toute la partie juridique, mais rajouter véritablement quel est le sens et le but au-delà de la partie contractuelle, quel est le but du projet mené, quoi.
Pour le contrat, Sylvain Bartholomeu, vous mettez en avant qu'il est surprenant que la qualification de licence de marque ait été adoptée. Alors, c'est une remarque qui a été faite par l'ensemble des experts lors de notre analyse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Sylvain ?
Alors, une précision importante, on n'a pas accès au manuel de savoir-faire, donc au contenu de savoir-faire. Donc, l'appréciation, on a tous fait cette remarque-là, en fait, tous les experts qui ont analysé les documents. De prime abord, pourquoi ? Parce qu'en fait... on voit une société, une enseigne qui s'assume franchiseur, qui se labellise franchise équitable, qui dans le contrat parle d'un savoir-faire, qui met en avant sa formation. Donc on se dit, de but en blanc, il y a des techniques, il y a des produits, il y a des prestations, il y a des méthodes qui sont considérées comme secrets, substantiels, identifiés. Donc ça devrait relever en fait d'un savoir-faire. Et on a à côté une entreprise qui souhaite aller au bout du geste, bien faire les choses et s'assumer comme franchiseur. Donc tout ça, en fait, encore une fois, on n'a pas vu les manuels de savoir-faire pour vraiment se dire c'est de la franchise ou ça n'en est pas. Il faudra avoir accès au savoir-faire en lui-même. Mais vu de l'extérieur, on se dit c'est bizarre, il y a quand même une vraie volonté d'être franchiseur. Il y a des arguments pour être franchiseur. Il y a une volonté de bien faire les choses, de s'assumer comme franchiseur et... en bout de ligne, on a un contrat de licence de marque. Donc, c'est un peu étonnant. Ça, voilà, ça mériterait aussi peut-être de se challenger là-dessus et de se dire est-ce que c'est ça la vraie voie ou est-ce qu'on assume un savoir-faire? Moi, vu de l'extérieur, encore une fois, être franchiseur, c'est une exigence pour le franchisé, mais aussi pour le franchiseur. C'est-à-dire pour le franchiseur, c'est une exigence de transmettre un savoir-faire, de l'animer, mais aussi pour le franchisé, c'est une exigence de respecter un savoir-faire tel qu'il a été décrit fidèlement. Et quand on est dans la licence de marque, on n'a pas pleinement ces moyens-là d'une exigence partagée autour d'un bien commun qui est le savoir-faire. Donc, en fait, on trouve tous les ingrédients de la franchise en corollaire dans l'intégralité du projet. Et à la fin, on a un contrat de licence de marque. Ça peut dénoter un peu. Donc, ça mériterait de se reposer avec votre avocat et de se dire est-ce que c'est encore l'histoire? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite défendre demain? Si je me place d'un point de vue d'un candidat à la franchise, je vois tous les ingrédients de la franchise, je vois tous les bénéfices de la franchise et à la fin, je vois marqué licence de marque. Ça peut m'étonner.
Alors, voilà. Marie, lors de notre échange, pour préparer la rubrique, vous m'expliquez que ce choix de la licence de marque était totalement assumé de la part de l'AFCAR. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi et pourquoi ne pas vouloir faire évoluer votre contrat vers de la franchise?
Oui, tout à fait. C'est une décision qu'on a prise, alors communément avec mes parents qui étaient donc, à l'origine de l'enseigne et de la marque, et puis aussi de nos adhérents, qu'on a du mal à les appeler d'ailleurs franchisés, exploitants, licenciés. C'est un petit peu compliqué l'appellation. Souvent, c'est plutôt partenaire, client ou exploitant. Il y a deux raisons à ça. Bon, la première, effectivement, c'est déjà la jeunesse du réseau. Aujourd'hui, on ne prétend pas avoir suffisamment d'antériorité et de notoriété pour pouvoir s'appeler franchiseur. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un souhait d'indépendance de la part de nos exploitants qui fait qu'on ne veut pas aller totalement sur le domaine de la franchise. Alors, avec ses avantages et ses inconvénients, aujourd'hui, c'est vrai que du coup, ça nous freine aussi dans notre développement de rester en contrat de licence par rapport à un contrat de franchise. Mais c'est un gage de confiance. On veut plus travailler en confiance avec nos exploitants et surtout leur laisser une indépendance qu'on estime, entre guillemets, amoindrie en passage en franchise. En ayant quand même beaucoup d'éléments qui sont effectivement, qui se rapprochent d'une réelle franchise, quoi. Donc, c'est un peu l'ambivalence de notre contrat, à savoir que quand on a démarré l'enseigne et la marque et le contrat de licence, notre première volonté était d'avoir un réseau de lavage homogène en termes de qualité de service et de qualité de lavage. Donc, c'était notre première et unique volonté. Après, le réseau a grossi, donc on s'est un petit peu adapté. On a revu notre contrat de licence pour qu'il se rapproche au mieux de la réalité du terrain. Mais voilà, aujourd'hui, notre souhait, effectivement, c'est de rester en contrat de licence pour ces arguments-là. Et puis aussi parce qu'on ne veut pas réclamer de redevances et de royalties. On veut laisser nos exploitants libres de leur exploitation. Et donc ça, c'est un vrai choix.
Marie, vous dites que le fait d'être en licence de marque peut freiner votre développement contrairement à la franchise. Pourquoi ?
Parce qu'effectivement, ça crée un étonnement de la part de certains de nos clients quand on leur explique le concept, le fonctionnement de la marque, l'exclusivité géographique, l'approvisionnement exclusif, le savoir-faire, et qu'ensuite on leur dise « non, c'est pas un contrat de franchise, c'est de la licence de marque ». Donc c'est vrai que ça surprend. Ça surprend aussi certains partenaires financiers parce qu'aujourd'hui, quand nos clients vont pour demander des financements, quand on a une franchise avec un DIP, avec un contrat de franchise assumé, c'est aussi plus facile d'obtenir les financements que quand on prétend un simple contrat de licence de marque. Donc, c'est vrai que ça freine aussi certains au niveau du financement. Et puis, on se positionne un peu à cheval entre deux. Donc, ça peut créer la confusion. Et puis, c'est plus compliqué aussi, nous, commercialement, d'expliquer la différence entre les deux. Et pourquoi on refuse de passer en franchise.
D'accord.
Donc, ça crée la confusion, ça freine un peu au développement en termes d'appui financier, d'appui bancaire. Et puis, voilà. C'est notre argument premier, c'est de laisser effectivement l'indépendance. Et puis, ça nous limite en tant que tête de réseau. Aujourd'hui, Quand on a un simple contrat de licence, entre guillemets, on a moins de force vis-à-vis de nos exploitants que quand on est engagé dans un vrai contrat de franchise.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est ce qu'on ressent un peu de l'extérieur. C'est qu'on sait que le cycle de vie du franchiseur, c'est des étapes et des phases de palier, en fait. Il y a des étapes de croissance et des phases de palier. Il y a la première étape qui est le prototypage, on crée un concept. On conçoit en fait une première stratégie de développement. Il y a une phase de pré-série où on intègre les premiers franchisés. Et puis, il y a souvent le cap des 100 dans les réseaux. Quand on atteint en fait les 100 franchisés, ils commencent à... on a passé une première colline, puis une deuxième colline en face. Et on se dit, est-ce qu'on va aller la chercher? C'est la colline des croissances externes, des opérations de développement où on industrialise plus, où on renforce le métier de franchiseur et où on est plus dans la vente d'un projet d'entreprise, d'un projet de réseau, que dans un concept simple, en fait. Et tout ça, je pense que c'est des sujets importants. Puis en plus, vous avez la filiation, si j'ai bien compris, dans votre projet d'entreprise. Donc, il y a plein de sujets qui mériteraient peut-être de se poser, de se dire c'est quoi la nouvelle étape, la nouvelle vision, la nouvelle projection. Et après, dans le comment, parce que toujours le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Dans le comment, ensuite, qu'est-ce que ça fait comme objet sur l'aspect contrat? Mais il y a une notion, moi, ce que j'ai ressenti en lisant les documents, c'est de me dire, quelque part, il faut s'assumer, quoi. Il faut assumer pleinement, mais il faut assumer pleinement aussi le chemin qu'on veut construire. Et c'est pour ça, voilà, les bonnes intentions, on les sent en fin de document. Les vrais arguments, on les sent en fin de document. La vraie histoire, on la sent là. Et puis après... très sincèrement, aujourd'hui, le contrat, c'est un point important. Mais demain, si vous assumez pleinement le fait de rester sur ce contrat parce que vous n'avez pas envie de le bouger sur les anciens, etc., bah, faut l'assumer complètement. Mais à contrario, il y a aussi pas mal de contradictions aujourd'hui dans votre discours. Donc, c'est un choix qu'il faut faire. Et cette décision-là, il me semble qu'il faut la prendre au regard de ce que vous voulez faire de ce projet d'entreprise, vous-même, et donc d'assumer pleinement, quoi. Et on sent ça, en fait. On sent qu'il y a un espèce de carrefour, en fait, dans le développement.
Mais c'est vrai. C'est, en fait, l'histoire aussi de la franchise, enfin, de la franchise de la marque, qui n'est pas si vieille que ça en termes de réseau et de contrat de licence, on a eu une grosse progression. Alors, la plus belle année, ça a été l'année 2018, où on a quasiment rentré une quarantaine de nouveaux franchisés licenciés dans le réseau. Et là, on est à un cap où effectivement, on a dépassé les 100, où on se dit bah, quelle va être la prochaine étape, et où on s'est fixé comme ligne directrice de ne pas partir dans n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas franchiser à tout va en ne maîtrisant pas la qualité du réseau et ce qu'on va en faire après. Donc, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, plus largement, contractuellement, c'est-à-dire plus largement que du contrat de franchise, c'est-à-dire quelle ligne directrice on veut prendre et qu'est-ce qui finalement est fondamental pour nous dans le développement du réseau.
Oui, et ce qui est important de se dire, c'est qu'en fait, quand on crée un réseau, on crée une machine pour permettre à des entrepreneurs de bien gagner leur vie. C'est ça le principe, enfin, les bons fondamentaux de la franchise. Donc, on a des franchisés qui rentrent dans un réseau pour gagner leur vie. Et ensuite, c'est comme la pyramide de Maslow, les attentes, elles évoluent. Et les franchisés existants ont de nouvelles attentes, de co-construction, de participer à la vie du réseau, etc. Et ces sujets-là viennent vous impacter en tant que franchiseur. Et viennent en fait, quelque part, vous poser les questions sur c'est quoi être franchiseur dans un temps 2, dans un temps 3. Et ça, en fait, ça impacte aussi votre relation avec vos adhérents. C'est-à-dire que quand on voit la franchise... La franchise, c'est des indépendants, c'est évident, mais c'est évidemment un niveau de relation un peu plus poussé que sur un contrat de licence de marque ou d'autres formes de contrats un peu plus légers. Voilà. Ça suppose de la construction, ça suppose de l'évolution du savoir-faire en concertation. Ça suppose aussi de l'accompagnement peut-être un peu plus poussé des franchisés sur leur gestion patrimoniale, les accompagner à préparer leur cession d'entreprise. Tous ces sujets-là, en fait, viennent au fur et à mesure où le réseau entre à maturité. Oui. Et donc, ça pose cette question de reprendre quelque part de l'anticipation, quoi, vis-à-vis de vous, et de se dire, moi, en tant que franchiseur, je dois avoir un temps d'avance vis-à-vis de mes adhérents, et je dois en fait leur reproposer quelque part un nouveau projet, une nouvelle projection. Voilà. Je pense que c'est au-delà des documents, là, on est complètement au-delà. mais c'est les sujets, je pense, pour vous, de demain, quoi.
Justement, vous parliez des licenciés, des adhérents, des franchisés qui sont globalement très satisfaits. Moi, tous ceux que j'ai interrogés l'article ont d'ailleurs soulevé et salué la qualité des produits utilisés au sein de votre enseigne. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment ces produits sont-ils fabriqués et s'il s'agit pour vous de produits exclusifs à la marque?
Oui, alors en fait, donc ces produits sont fabriqués par une usine en France, qui est une usine avec laquelle travaillaient mes parents depuis leur début, depuis les années 88. Donc aujourd'hui, c'est une gamme de produits exclusifs, c'est-à-dire qu'on les met à disposition, on ne les commercialise qu'à nos clients franchisés. C'est une gamme très qualitative, donc on est au-delà, en fait, quand on parle de chimie et de consommables, on parle de densité. Donc, on est sur une densité de produits qui est bien au-delà de ce qui est commercialisé aujourd'hui par nos collègues et concurrents dans le marché et qu'on maîtrise parce qu'on connaît la formule depuis de nombreuses années et qu'on maîtrise aussi par rapport à notre technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une station de lavage, c'est toujours la difficulté d'avoir du bon matériel et du bon produit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les deux qui font un bon lavage. Vous ne pouvez pas travailler uniquement avec une bonne chimie sans avoir le matériel adéquat. Donc, en fait, nous, notre force, c'est qu'aujourd'hui, on connaît suffisamment notre matériel et notre produit, parce qu'on travaille avec depuis de nombreuses années, pour connaître toutes les conséquences à la fois sur la qualité du lavage, mais aussi sur la qualité et la fiabilité du matériel derrière. Donc, le produit n'a pas évolué. Alors, bien sûr, il évolue au fur et à mesure, parce qu'il y a des nouvelles réglementations, notamment au niveau des rejets, de l'environnement, etc., qui arrivent. Donc, le produit évolue un petit peu. Mais au niveau de la densité, elle ne bouge pas. Des composants principaux, ça ne bouge pas. Et c'est une formule aujourd'hui qui est exclusivement dédiée à nos franchisés.
D'accord. Enfin, une question sur le contrat. On a un peu dévié des supports tout à l'heure, mais Sylvain, vous estimez également que sur le contrat, s'il se veut équilibré, quelques clauses manquent de précision. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi et qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
Oui, dans l'analyse, on a listé quelques clauses qui manquantes ou qui pourraient être renforcées, mais une, par exemple, qui est symbolique des échanges qu'on a eus, c'est l'article 11 sur le site internet et les réseaux sociaux. C'est une clause qui est relativement courte. Alors, encore une fois, peut-être que c'est précisé dans les manuels de savoir-faire, l'utilisation, ce qu'on peut faire, ne pas faire, est-ce qu'il y a une charte liée à l'utilisation des réseaux sociaux, qui fait quoi, en fait, dans ce dispositif-là? Ce qu'on sait, en fait, c'est que c'est un sujet qui devient plus qu'un enjeu, en fait, pour les enseignes. C'est juste fondamental, le digital. Et quand on lit la clause par rapport aujourd'hui aux enjeux liés à la communication digitale, bon, on est un peu léger, en fait. On est un peu léger. Alors, est-ce que c'est renforcé dans les manuels de savoir-faire? Je ne sais pas. Mais c'est léger par rapport à ce qu'on constate d'habitude. Donc, certainement que le contrat a été rédigé il y a quelques années et qu'aujourd'hui les enjeux évoluent et que c'est intéressant de reprendre le contrat en se disant, ben voilà, sur ces articles qui sont devenus pas de l'anecdote, hein, le site internet il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était un peu anecdotique dans la relation franchiseur-franchisé. Aujourd'hui, on n'est plus que sur le site internet, on est sur les réseaux sociaux, sur le community management et maintenant, c'est plus de l'anecdote, quoi. C'est devenu crispant, prégnant, et puis surtout avec des risques images extrêmement importants. Donc, je pense que c'est intéressant de relire. On a listé, en fait, dans l'analyse, les éléments à retraiter. Je pense que c'est intéressant de regarder avec votre avocat, en fait, ces points-là particuliers, se dire, au regard de notre stratégie, au regard du réseau actuel, et puis de ce qui organise, en fait, notre relation avec nos adhérents, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que eux doivent faire? Et puis, est-ce que le contrat est à jour au regard de ces enjeux-là, quoi? Voilà. Mais donc, voilà, on se retrouve avec un article qui est très léger, qui est assez court, comparé aux enjeux actuels sur la communication digitale.
Marie, est-ce que vous souhaitez apporter des précisions, notamment sur cette clause spécifique à l'utilisation du site internet et des réseaux sociaux?
Oui, c'est une très bonne remarque. Alors, en effet, on le précise un petit peu dans le manuel de savoir-faire, notamment au niveau de la charte, etc. Par contre, c'est vrai que la clause est très légère dans le contrat. Alors, Pour deux raisons, effectivement. Bon, il y a une première raison qui est le contrat qui est un petit peu, enfin, qui est pas récent. Et ces enjeux-là ont énormément évolué ces quatre dernières années. Et le marché aussi a évolué, puisqu'aujourd'hui, on est dans un secteur, le lavage, au début, les réseaux sociaux et la communication dans le lavage n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on avait sa clientèle qui était sédentaire. On n'avait pas forcément beaucoup de concurrence. Donc, on faisait son business comme ça. Aujourd'hui, ça a évolué. Même nous, on a passé le cap. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, avant, on a ce qu'on appelle les journées d'inauguration. Donc, quand la station est livrée, on fait une journée de communication porte ouverte, en fait. Et dans les années, jusqu'aux années à peu près 2018, on distribuait des flyers papier. Aujourd'hui, ça s'est révolu. Aujourd'hui, on fait une communication via Facebook où on a beaucoup plus d'impact, qui nous coûte moins cher. On n'a pas de problème de flyers par terre et sur les véhicules qui agacent fortement, et ce que je comprends. Donc, on est passé aussi sur une communication totalement différente et on n'a pas forcément fait évoluer cette clause par rapport à ça. Donc, c'est clair qu'il faudra, la revoir et puis la détailler un petit peu, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les réseaux prennent du temps. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler, parce que si on laisse faire, c'est un peu tout n'importe quoi.
Exactement, exactement. C'est, enfin, de toute façon, le pire ennemi d'un réseau, c'est l'improvisation. Donc, il faut éviter, en fait, ces phases. Mais après, c'est évident qu'un franchiseur ne peut pas être systématiquement à jour. Il a des phases où il se remet à jour, les phases paliers, puis après il réenchaîne sur des phases de développement. Donc voilà, donc je pense que c'est peut-être le bon moment de le faire, notamment sur ces sujets-là.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne de EasyCash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio telles que Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.